Bonsoir. Ce soir, nous recevons M. Gilbert Fournier, qui va nous entretenir de la République et des cartons. Il est de bon temps en France, puisque le libéralisme ne s'applique pas en France, ce sont des biens portés. Or, nous avons la preuve que le libéralisme s'est appliqué en France, dans la République des cartons. Une région qui se trouve actuellement dans la région de Briançon, entre 1348 et 1791. Monsieur Gilbert Fournier, c'est un économiste de terrain, lui a pratiqué naturellement l'hiverisme, parce qu'il l'a vécu tous les jours. Il a été exploitant agricole, puis après exploitant immobilier. Il a eu à la fois de l'expérience dans les achats publics et dans le domaine privé, et ensuite, à partir de ces expériences-là, de la théorie des slaves, il a rencontré la grande Frédéric Bastiat, c'est lui qui est à l'origine de la renaissance des cercles de Frédéric Bastiat en Iran. Monsieur Fournier, c'est à vous.
Mesdames et messieurs, il était une fois un pays où les habitants achetèrent à leur prince les services d'une contrée nommée Liberté. La narration pourrait se poursuivre dans ce registre, puisqu'il s'agit d'un conte véridique relevant du historien ou du touriste, du 14e siècle ou historien, de l'aube de l'histoire pour le libéral. Ce pays, perché au sommet des Alpes, de part et d'autre des sommets franco-italiens, s'insère dans un triangle équilatéral de 90 km de côté, à peu près équidistant des trois villes, Grenoble, Turin, Gap. Caractérisé par l'ampleur de l'échelonnement altitudinal, démarrant à 900 mètres, pour grimper à 4102 mètres, c'est la barre des Alpes. Des montagnes qui touchent aux nues, des vallées qui descendent aux azules, telle est la description qu'en donnera le célèbre Vauban, venu édifier des fortifications. Et impressionné d'y apercevoir le village le plus haut d'Europe, Saint-Véran à 2050 mètres, et d'avoir affaire à la ville la plus haute aussi, Briançon, à 1400 mètres, longtemps plus importante que Grenoble. Était de ces mondes, plus fait pour les chamois et les loups que pour les humains, qu'au mois de mai de l'an 1343, 18 hommes dépassent leur sentier luthier pour se rendre fort loin dans la plaine, à 180 km, où les attend dans son fastueux palais un vers deux, le maître du Dauphiné. Cette province est encore à cette époque-là un état, et un vers deux, un souverain. Le souverain de cette contrée haut alpine, jalousement dénommé par ses ressortissants patrie briançonnaise, patrie par sa cohésion historique, culturelle, de type patriarcal très marqué, et dont la majeure partie de son territoire, du moins la meilleure, se trouve aujourd'hui en Italie. Un recensement ordonné par un vers deux dénombre 7200 feux, c'est-à-dire familles, représentant 30 à 40 000 habitants, répartis dans une cinquantaine de communautés villageoises. Une nombreuse population, vaillante, entreprenante, est déterminée au point d'envoyer les 18 montagnards cités en délégation pour conclure solennellement un engagement réciproque, extraordinaire en ce 14e siècle, inconcevable de nos jours et dont voici la genèse. À mi-chemin entre Grenoble et Valence, au lieu-dit Beauvoir, se dresse encore un pan de mur, dernier vestige de ce qui fut le château enchanteur d'un vers deux, où se pressaient jusqu'à 2000 personnes, la plupart bénéficiant de la munificence de ce prince. Celui-ci, bien qu'il s'avéra être un régnant avisé, créant une université, une chambre des comptes, était dépensier, d'où le sobriquet donnèrent les mains percées. Élevé dans le luxe de la cour du royaume de Naples, il en conservait goût, au point d'habituer à boire dans une coupe en or, il refusait celle en argent. Engageant des dépenses au-delà de ses revenus, le voilà en 10 ans de règne, criblé de dettes et sans descendance, il avait perdu un fils, s'apprête à céder Dauphiné. En 1349, cette province est agrippée dans les serres des rois de France, qui allait devenir la France. C'est alors que les gens du grand Briançonnais dans le temps, redoutant cette cession, profitent comme l'un d'eux est financièrement aux abois pour engager des pourparlers en vue d'obtenir l'affranchissement des personnes et des biens et la sûreté de leur avenir. Comment se fait-il qu'à l'époque du féodalisme régnant, du servage courant, encore 60 ans, et du transit pas loin de là, de cargaisons d'esclaves dans le port de Gênes, des gens passant des rustres, vivant souvent à la limite des neiges éternelles, bravant les hivers sibériens au haut d'une telle démarche. Ces lieux inhospitaliers, difficilement gouvernables depuis un pouvoir central, favorisaient la réminiscence de l'individu à tout, chose innée et louable, entretenant un état d'esprit latent de rébellion de sédition. Celui-ci en viendra à s'exprimer au sein des assemblées villageoises, où, s'y confortant, il engagera les municipalités à requérir davantage d'autonomie. D'autant que la féodalité ne s'était pas établie en cette contrée avec la même vigueur qu'ailleurs. Les dauphins n'y avaient plus de droits et de charges héréditaires. Si bien que dans la rivalité habituelle féodo-municipalité, celle-ci, ces dernières gagnaient en autorité, s'arrogeaient des pouvoirs. Car, révélateur, parmi les 18 compagnons en route vers Beauvoir, précisément désignés et mandatés par les municipalités, il y a 3 nobles, sans plus de pouvoir que les 15 autres des roturiers. À la suite de la disparition d'Archuse lors de la terrible inondation qui ravage Grenoble en 1219, due à la rupture d'un barrage alluvial retenant un lac, les dauphins éprouvent des difficultés à faire reconnaître leurs droits et propriétés. Profitant du doute, les communautés villageoises obtiennent séparément des avantages, des échantillons, des petites chartes locales égrenées au fil des années, et toujours assorties d'une compensation, d'une rétribution en argent. Jusqu'à ce que l'habitude prise, les municipalités s'avisent que le moment est venu de proposer de faire table rase, moyennant finance. Un verre d'eux, homme d'argent, accepte. L'ultime transaction se déroule le 29 mai 1343 au château de Beauvoir entre un des deux et les 18 députés intervenant au nom de cette classe briançonnaise. La présence de nombreux militaires, dont l'évêque de Grenoble, confère de la solennité à la défense. L'accord est consigné en latin, de la main d'un notaire, dit de Provence, et, disons aux humains, puisque le document officiel sera rédigé sur 2 grands pots de mouton réunis, ayant 3 paras de notaires sur leur ligne de jonction, de manière à ce que chacun de ces paras se trouve par moitié sur chaque pan. Hauteur 1,84 m, largeur 1,20 m. Il résulte de cet acte notarié que le dauphin confirme la liberté, franchise et coutume concédée ou admise par lui ou ses prédécesseurs. Il abandonne les redevances foncières, servaux, de toutes sortes d'impôts, exception la gazelle concernant le bétail à l'aise. Il le reconnaît ou concède des franchises personnelles et municipales importantes. Il les subroge à ses droits à l'égard des choses cédées. Et qu'il ne se réserve, somme toute, que les droits attachés à sa dignité de dauphin. Moyennant, moyennant une somme de 12 000 florins d'or, monnaie de Florence, plus une rente annuelle et perpétuelle, rente annuelle fixée par la suite à 4 000 ducats, monnaie de Gênes, et dont l'inobservation entraînerait la résiliation. Tel est le résumé succinct de ces transactions consignées en 38 articles, à l'allure d'un inventaire à la Prévert, mais tous essentiels, capitaux. Pour les Briançonnais, c'est la passation d'un marché entre partenaires à égalité à un moment donné. Ce qui doit réviser la fierté de ce montagnard à boucler, l'un d'eux dira, quand on traite avec son supérieur, on devient momentanément son égal. Il importe d'observer, quant à nous, que ce véritable contrat, où figure même la clause des groupes, ne consiste pas dans l'attribution d'une nouvelle institution, comme l'appellation équivoque de Grand Charles de 1743 et les procédures politiques de l'espoir, mais il s'agit tout bonnement d'une libération de la liberté. Celle-ci, comme dirait Jacques Carillon, se chargera du reste. Lorsque ce terme institution au pluriel réapparaît, par exemple lors des démêlés avec le roi de France, puis avec les Jacobins, il ne s'agit ni plus ni moins que de ce bon vieux système de gestion municipale bien calé sur une démocratie directe d'avant et que la rusticité des lieux prédestinait volontiers. Tous les ans, à la chandeleur de 2 février, les chefs de famille du village se réunissent pour désigner lequel d'entre eux serait le consul. Par candidature, le très refusé. C'est-à-dire le premier magistrat de leur municipalité jusqu'au 2 février suivant. Un notaire, ou un avocat, voire même un curé, circule dans les rangs et interroge discrètement à voix basse chacun d'eux. Celui qui est le plus proposé est déclaré consul pour l'année. Quelquefois, c'est à son corps défendant. Or, il ne peut pas refuser. Il est même contraint de déposer une caution de 200 écus restituée avec intérêt à sa sortie si sa gestion ne se bonne. Car il reste responsable sur ses deniers de la recouvrance de l'impôt et de l'excédent des dépenses dépassant le budget prévisionnel. S'il n'a pas 25 ans, et bien qu'il soit marié, son père doit questionner également. En contrepartie, durant son mandat, il dispose des pleins pouvoirs et personne n'osera critiquer ses décisions. Il désigne alors ses adjoints ou, selon les villages, c'est encore les chefs de famille qui les nomment. Adjoint qui s'occupera des problèmes de l'eau, le manquier, adjoint à la préservation des forêts, le bannier, etc. Enfin, le consul sortant est rééligible au bout de 5 ans. Voilà s'inspirer pour mettre un terme au carriérisme politicien, un de ces états dans l'état. Ces montagnards avaient pressenti la dérive de la démocratie représentative qui consiste à garder le pouvoir en s'assurant une majorité d'électeurs au prix de démagogies pernicieuses. Et ça continue de plus belle. Jusque-là, les réunions du Conseil étaient soumises à l'autorisation de l'officier destinable. Désormais, à partir de 1743, c'est la pleine et entière liberté de réunion que tout villageois peut d'ailleurs réclamer. Chaque municipalité gère au plus près des intentions, des aspirations plus administrées, puisqu'il y a une remise en question chaque 2 février. Elle veille à l'efficacité de la solidarité naturelle. Ainsi, le village d'Ardieux décidait que lorsque les hommes s'en iraient faucher les terres d'altitude, la première journée serait réservée aux veuves et aux orphelins. Ailleurs, il est dit que lorsqu'un habitant perd une vache ou un mulet qui sont des êtres précieux, la perte sera supportée par chacun des habitants, le conseil répartit la charge au prorata du bétail possédé. Si quelqu'un construit ou même répand sa maison, la municipalité décide d'une couronnée de tous pour la coupe du bois nécessaire et le transport des matériaux.
matin, lorsqu'un incendie laisse son lot de désolation, la municipalité procède à une quête. Et s'il ne peut supporter à elle seule le désastre, elle sollicite le concours des autres municipalités. Car entre les communautés d'une même vallée, plus précisément d'un même bassin hydrographique, un système intercommunautaire répartit entre elles les charges et les tâches dépassant leurs moyens propres. C'est l'escarpon. L'escarpon intervient ainsi à l'instar d'une assurance couvrie. Et dans la foulée, il règle de gros problèmes communs, chemin, irrigation, environnement, acquisition, etc. Enfin, il lui arrive d'avoir à prendre en considération ceux des autres vallées d'outre-mer. L'escarpon, c'est donc une vieille pratique mutualiste, d'origine fort lointaine et consensuelle, qui a traversé des siècles pour le moins six, sans modification ni altération notoire, sacralisée par l'usage et la volonté des intéressés, et qui a même pour permis assurer la survie des hommes en ces lieux, notamment lors de la période glaciaire qui s'installa durant trois siècles. Et personne n'a pu dire depuis quand existe ce terme escarpon. Des coquilles du vieux mot escarqué, signalé au troisième, qui signifiait séparé, puis par extension, éloigné, que l'on retrouve dans l'italien scarpare, ou bien du latin populaire escarpare, partagé en quatre, du U à l'escarpe étant la coquille. Escartonnage des impôts, c'est procéder à leur répartition entre soi. Effectivement, en cas, puisque initialement il y avait quatre escartons. L'escartonnement est l'assemblée des délégués procédant à une répartition ou à une prise de décision à l'écart, écartée de la vue des gens de l'extérieur. Et les escartonnants veillaient bien à ce qu'il en soit ainsi. Lorsqu'en 1690, M. Verdigny, nouvel intendant du Dauphiné, fit sa première visite au Briançonnais, il voulut voir les archers, savoir de quelle manière ils procédaient aux impositions, en un mot, pénétrer dans le fond de leurs affaires. Les bourgeois venant à la rescousse de leurs élus répondirent, je les cite, que pourvu qu'ils donnent au roi qu'ils pointaient d'eux, on devait plus s'embarrasser de quelle manière il le faisait, et que c'était un détail au-dessus de ses lumières. Ainsi, après les avoir tourmentés pendant deux jours, encore plus savoir que le premier, il s'en alla continuer son voyage. Fin de citation. Les répartiteurs étaient choisis par les habitants et devaient prêter serment, je cite, d'éviter et de compter de façon que le faible soit défendu dans le corps. Cette patrie briançonnaise comprenait cinq escarpons. Briançon, comptant 12 communautés. Queyras, 7 communautés. Ours, on doit prononcer Ours, ça s'écrit O-U-L-O-6, 21 communautés. Valbrouson, Fagelas, 7 communautés. Et Château des Saints, 4 communautés. Total, 51 communautés. Et le grand escarpon désigne à la fois l'ensemble territorial de ces cinq escarpons et la réunion à Briançon de leurs délégués respectifs qui, appelés députés, ne peuvent statuer dans les affaires importantes qu'après en avoir référé à leur escarpon, lequel, si besoin, consulte et consulte, ceux-ci retournent vers les chefs de famille qui, eux, en terminent. Lorsqu'il y a ce va-et-vient, ce n'est pas le député qui a inscrit l'affaire qui traitera, mais un autre député qui sera dépêché pour conclure ou signer. Et c'est devant le grand escarpement que nos 18 députés mandataires viendront rendre compte à leur commettant de leur mission à Beauvoir en cette année 1343, l'année sans doute la plus vaste pour ces Briançonnais qui devenaient tous et d'un coup hommes, libres, francs, bourgeois. 1343, l'année sans doute la moins remarquée de ce Moyen-Âge, appauvrie côté français par 100 ans de guerre, de pillage, de famine, de rançon, de rancœur et de peste noire, où cette étincelle de liberté aurait dû être d'autant mieux perceptible. Mais cela doit déranger les faiseurs potentiels d'opinion. Or, cette libération simultanée de l'individu et de la propriété relève précisément du principe cardinal du concept libéral. Il n'y a pas de liberté sans propriété, faisait observer Bastien. Ici, la propriété est même prise en compte avant les droits politiques. Dès l'article 1er, il est stipulé que tous les habitants, hommes et femmes, sont habilités à posséder. L'article 16 conforte ces dispositions en reconnaissant expressément à chacun le droit de cession ou de donation sans autorisation ou consentement du vicomte, ce que personne d'entre nous ne suppose aujourd'hui. L'affranchissement des personnes et des biens opère une révolution, pardon, une évolution au sens libéral, c'est-à-dire de la manière la plus naturelle possible, par la seule force des choses, dira quelqu'un de là-haut. C'est l'extinction rapide de la féodalité, plus exactement ce qui en reste, à la suite des achats répétés d'idoles de liberté, commencés 100 ans auparavant. Tel l'achat en 1244 de Titanou, pour 5500 sous, une charte protégeant de toute taille arbitraire. En 1255, le rachat aux dauphins de canaux d'élévation, etc. Et c'est l'extinction progressive de la noblesse, sans profit de cela. Avant 1343, les nobles, pratiquement déjà dépourvus de pouvoir féodal, abusent cependant de celui que leur conférait la position très recherchée d'officiers des tribunaux, viguiers, baillis, etc. D'où un état constitué permanent qui, désormais, va disparaître. Des nobles exercent au cours des deux siècles suivants, après avoir réalisé leurs biens, certains reviendront, 3 ans après Beauvoir, en 1346, les nobles auraient obtenu des indemnités compensatives versées par quelques communautés, moyennant quoi ceux-ci furent définitivement astreints à l'impôt dans tout le monde. Ceux qui restent se mêlent indistinctement à la bourgeoisie dominante. Convertis de leur entre-genre et de leur savoir, ils seront souvent élus consuls. Peut-être est-il besoin de rappeler que tout cela s'est déroulé 450 ans avant une certaine nuit du Capou. D'une part, il y a cette déféodalisation réussie. D'autre part, il y a cette auto-organisation des escarcons dont un texte de 1382 relate les administrés. Je cite, « Il est meilleur de s'unir et de jouir d'un même émolument de société, en sorte que, lorsque l'un vient à tomber, l'autre le relève. » La réussite de ces deux entreprises résulte-t-elle de la sagesse d'une population meilleure qu'ailleurs? Nullement. C'est bien le problème. Un goût pour la procédure et des comportements quelque peu chicaniers, farouches, lacroix, invitent à penser le contraire. Vers 1710, l'ingénieur Labotière, en tournée d'inspection militaire dans les Alpes, intrigué par ses montagnards, donne cette description. Je le cite. Quoique par l'escarton, il semble que ces feux soient d'une grande liaison. Cependant, de particulier à particulier, il ne se trouve pas plus d'union parmi eux qu'ailleurs, même moins. Mais, d'abord qu'il s'agit d'intérêts physiques, ceux qui étaient prêts à se battre et qui se déchiraient par des calomnies outrageantes, se réunissent à l'instant et paraissent une concorde admirable. Cela fait qu'il y a très peu d'affaires. Quelle est une œuvre qu'elle soit, dont ils ne viennent à bout, sans citation. Sans doute est-ce la peur de voir entamer dans l'université qui les faisait réconcilier. Au point que ces communautés édictaient leur propre règlement de police. Elles élisaient des juges, statuant sur toutes les contraventions, en se référant d'abord aux coutumes locales. Par exemple, la commune d'Argueux ne reconnaissait pas la prescription centenaire, alors sa voisine le reconnaissait. Les modalités de la composition de cette magistrature municipale se forgea à l'usage. D'abord annuelle, comme pour toute charge municipale, elle devint bisannuelle lorsqu'on décida de ne renouveler chaque année que la moitié des juges afin que les anciens puissent initier de nouveau. Ces tribunaux, intentionnés jusqu'en 1790, malgré l'abolition de toutes les justices municipales prononcées dès 1556 par une ordonnance royale, il n'a jamais pu être exécuté dans les Antilles. Ces tribunaux avaient notamment à sanctionner les infractions aux dispositions municipales relatives aux biens communaux, forêt, alpage, réseau d'irrigation, car la topographie accidentée à l'extrême rendait quasiment impossible l'appropriation personnelle, d'où une sévère réglementation assurant leur conservation et leur exploitation, conférant à chacun le droit de les utiliser et non nuant le droit à les dégrader, dilapider comme toujours en concept collectif. Les Briançonnais étaient très attachés à leur justice et très prédictive, peu onéreux, et à leurs codes municipaux élaborés au fil des ans, appropriés aux besoins et usages locaux, approuvés d'un suffrage universel, si bien qu'il a reçu assez d'autorité de la sanction populaire, il se dispensait de les faire homologuer. Et il n'est pourtant jamais venu à l'esprit d'un seul Briançonnais de contester le système durant les 234 ans de l'interdit. Être homme libre, franc, bourgeois, et avoir le droit de chasse et le droit de port d'armes qu'aucun d'entre nous ne dispose, procure de tels avantages à pareille époque que cette condition sociale, située entre le roturier et le noble, provoque un afflux d'étrangers sollicitant la citoyenneté briançonnaise. Pour être accepté avec le titre de comte, il faut faire la demande devant le conseil du bourg qui statue après enquête sur les mœurs et les qualités du prétendant. Celui-ci doit y habiter, avoir les moyens d'existence ou posséder un immeuble imposé, définitivement fournir l'équipement complet d'un homme de guerre. Par la suite, l'armement ne fut plus exigé, mais la somme versée augmentée. Un moment, celle-ci varie de 120 à 300 livres, selon la fortune et les avantages pouvant être fournis ultérieurement par le référent. Ainsi, un prêtre fut accepté pour 50 florins payables en 5 ans, un praticien est admis à 200 livres, réduit à moitié en raison des services qu'il pouvait rendre. Le nouveau citoyen n'est sans emprunt d'un congé légitime. Pour la communauté Briançon, un règlement de 1575 stipule, je cite, nul étranger, non natif de Briançon, reçu ou non bon bourgeois, ne pourra obtenir le titre de consul en observation des vieilles et anciennes libertés. Bien plus tard, le bon bourgeois pur prétend au consulat, mais 6 ans après leur construction. Grâce à la liberté, cette contrée a développé une intense activité commerciale qui compensait l'absence de production industrielle, donc de construction. 3 grandes voies franches, dont une internationale, je dis bien internationale, attirant des marchands depuis la Hollande, depuis les cités de la Ligue hanséatique et en plein essor, croisant le trafic entre les cités italiennes et l'État pontifical d'Avignon. Les escarpons prenaient des mesures extraordinaires pour la sûreté et la libre circulation de voyageurs et de leurs marchandises. Jusqu'à 200 personnes en Montgenèvre ou Génégé, en Ténégère. C'est aussi ça la vérité. Voici l'opinion de l'intendant du Dauphiné dans son mémoire de l'année 1689. Je cite, les peuples du brillant soleil, ordinairement avec les plus faibles commencements que l'on puisse imaginer, acquièrent par leur application des richesses considérables. Le moyen qu'ils emploient communément à cette fin est le commerce qu'ils vont faire indifféremment en France, en Italie, en Espagne et même au Portugal. Fin de citation. Alors que de nombreuses ordonnances royales interdisaient avec une excessive rigueur le cours et l'usage des monnaies étrangères, ces libéraux, ces masses, ont obtenu durant plus de deux siècles une exception à la règle générale. En 1404 sous Charles VI, 1533 sous François Ier. C'est ce qu'ils appellent leur privilège des monnaies et nous, l'usage bien compris des monnaies. Il nous faut laisser de côté d'autres bienfaits à l'article de la liberté, tels que l'aménagement de gigantesques réseaux d'irrigation des marins à Dublinet, afin de ne pas rater celui de l'entraînement, où les gens de si haut et de si loin en arrière nous donnent des leçons. Proposer un marché libre d'instituteurs sur la place publique, nous vaudrait le lynchage ou l'asile, dont on est. Et pourtant, tel était le système pratiqué tout là-haut et durant des siècles. C'est même une chose curieuse, disait émerveillé en langue dite un prophète, de voir dans les soirs d'automne ces instituteurs couverts d'habits grossiers se promener dans la cour au milieu des bestiaux, ayant sur leur chapeau une plume noire qui indique et leur état et leur volonté de se louer pour l'hiver, moyennant un prix à conduire. Fin de citation. Une plume noire indique l'attitude à enseigner la lecture et l'écriture. Deux plumes, l'arithmétique et les sciences naturelles. Trois plumes, le latin en plus. L'enseignement, ces gens entendaient en faire leur affaire personnelle, l'inclure dans les attributions municipales et le régler village par village et quelquefois même hameau par hameau. Je racontais ça. Quant aux familles, qui ne pouvaient pas payer l'écolage, c'est-à-dire leur quota des frais d'école, elles en étaient discrètement dispensées. Et il fallait qu'elle soit réellement indigente, car toutes étaient un point d'honneur à la cité. C'était donc une municipalité qui nommait leur instituteur sur examen tout concours, protestant ou début octobre. Par exemple, l'article 17 d'un règlement de Briançon de 1624, c'est-à-dire 1624, disposait formellement, je dis, nul ne sera reçu en cette ville pour maître d'école, qui n'ait été examiné par deux avocats et un loi connu par conseil. Vos mots aussi seront ségages et résolus en conseil. Souvent, la notoriété dispensait de comparaître, mais, il suffisait qu'un seul parent conteste pour que l'examen soit exigé. Trois causes. À l'avance considérable que ce pays avait pris sur les autres régions de France sous le rapport d'instruction. Premièrement, l'habitude que les hommes valides ont eu d'émigrer pendant la mauvaise saison se transformant en marchands pour colporteurs et faiseurs de l'immétier dans l'idétine des bons pays d'en bas. Certains fondèrent des réseaux commerciaux jusqu'au bout du monde alors. Donc, il leur fallait nécessairement savoir lire, écrire, compter. Deuxièmement, pendant les pérégrinations hivernales des fermes familles, les femmes et les vieillards restés au foyer employaient les longues soirées d'hiver à apprendre à leurs enfants et petits-enfants les rudiments que complétait l'enseignement communal et en liaison étroite avec celui-ci. Puisqu'il arrivait que les familles hébergent à tout rôle l'instituteur et les femmes du village. Enfin, troisièmement, ce facteur capital, la liberté, qui dès le 14e siècle a catalysé les aspirations de chacun par ou pour l'enseignement. Par et pour, puisque tous les présidentionnaient, tous les présidentionnaient, c'est alors fait un devoir de recueillir l'instruction, et y compris du civil, et un droit de concourir à la réponse, longtemps même après les restrictions de liberté. Ainsi, sous la Restauration, un épistolier noté sur cet instituteur improvisé, je cite, retenu par les primats dans son état. L'habitant s'y instruit, se civilise, enseigne ses enfants et serviteurs, il tient pour eux école. Professeur le plus élevé et le plus inaccessible qu'il y ait plus proche, il ne craint pas que l'université le précipite du haut de sa chaise, qu'elle lui prescrive un mode exclusif d'enseignement, qu'elle mesure à son autre les intelligences et qu'elle lui dise tu t'arrêteras là. Bien que ces maîtres d'école eussent à la belle saison pas moins paysans, forestiers, bergers, tâcherons, journaliers, n'empêchent que leurs compétences les recherchées, que sanctionne d'ailleurs l'écart des rémunérations, allant du simple au quintuple. Leur réputation est grande, ce qui leur valait de cheminer fort loin, de plus en plus loin, jusqu'en Alsace, à l'étranger, dans le Piémont, durant, disait-on, une campagne d'école. On les appelait les marchands de participes. Les aspirants n'ont évidemment pas les moyens de construire des bâtiments scolaires. Au chef-lieu, la classe se fait dans la salle servant aux réunions du conseil. Dans le reste de la communauté, eh bien, l'école se tient dans une étable, où elle est bien à l'abri de la froidure. Voici la description faite par un voyageur de ce lieu où se tient l'école, un logis que l'habitant partage avec les animaux. Au rez-de-chaussée, généralement, il y a la salle, grande, tapetée, bien propre, évitée. L'un des côtés est garni par des lits dont les voiliers montent en haut. Des bancs qui appuient. Au fond, il y a les vaches qui entretiennent l'hiver, une chaleur un peu épaisse, mais non malsaine. Sur les murs, des inscriptions telles que celles-ci, enfants, apprentissent les vaut mieux science héritage, quand l'héritage se manquera, la science se nourrira. Voilà par quels moyens simples et économiques les Briançonnais pourvoyaient en école les moindres hameaux. Voilà comment une évaluation d'avant 1789, révèle que 35% des femmes et 90% des hommes s'habillent, c'était son père, et que depuis plus d'un siècle, cette contrée était en tête de l'alphabétisation en France. Voilà pourquoi, en 1713, des envoyés de la cour furent ébahis de recueillir de telles signatures, assorti de commentaires écrits, alors qu'il pensait avoir affaire à des bouseux illettrés signant du droit. Certes, l'enseignement plaquait essentiellement sur les exigences de la vie. Règle 3, pourcentage, arpentage. La lecture s'achevait sur le décryptage des archives de notaires et d'avocats, s'il n'avait pas le droit d'acheter. Ce qui a inculqué des notions de droit, ce dont les jeunes aujourd'hui n'ont pas la moindre idée. Bien que rudimentaire, cette école fut une pépinière de 5 ou 6 mathématiciens célèbres, Gauss, Oronsky, ou François Ier. Jean-Joseph Rossignol ou Louis XVI, d'ingénieurs du génie militaire, du génie civil, comme Jean-Antoine Morand, et de Péné à Lyon. De hauts fonctionnaires jusqu'à la cour de Sardaigne, qui a eu deux ministres qui sortaient des États. Sans compter d'innovateurs, de faiseurs d'emploi, et de tous ces deux yeux effacés, ne réclamant rien, si ce n'est la liberté, pour se subvenir à eux-mêmes et à leur ville, et qui un jour, passant par la fierro du respect de l'homme, rejoindront Besard Fulbeau de cette phalange de la mystère. Alors, me direz-vous, comment se fait-il que cette phalange ratifiée ait disparu? Qu'elle ne soit pas aujourd'hui un énième canton suisse, avec pour cordon ombilical la Savoie, désireuse en 1860. Le Val-d'Aoste, lui aussi, est-il indépendant? Sans doute que la Suisse, après avoir rejeté en leur temps la Franche-Comté, le Tyrol, le Vorarlberg, par crainte du sort de la grenouille de la fable avec le bœuf, aurait aussi repoussé ses Alpins du Sud. Cependant, cet aspect brillantonnel aurait pu engendrer une deuxième Suisse. D'autant que celle-ci disposa longtemps d'un poids démocratique, commercial, politique, voire même concessionnel, suffisamment attractif, faisant des envieux. Briançon, la ville, compta jusqu'au tout les habitants de ce Grenoble et la précisa sous l'esprit d'entreprise. Comparativement avec le berceau de la Suisse, ces escartons avaient la même étendue que les trois escartons, que les trois cantons, pardon, embryons d'un métier, Lurie, de Schwitz, Lundenberg, Lundenberg, envergure à vol d'oiseau 80 km, même en rien vu. La même configuration qui manquait que ces vastes étaient ou ces parmi pays forestiers, le même avantage, ou selon le même handicap, le façade obligé, Saint-Gothard, Bruxelles, le même mode de vie, de coutume, enfin la même préoccupation majeure, l'obtention et la préservation de la liberté. Une deuxième Suisse, donc, qui n'aurait aujourd'hui rien à envier à la première, et dont elle serait la cadette d'une cinquantaine d'années seulement sur 6 siècles d'histoire. Roméo, 1291, côté Suisse, 1943, côté Briançon. Deux Suisses, ou une Suisse bouclée, répondrait l'ardeur littéraire de nos bureaucrates du bruxellois. Rien, oui, ça fait eux, rien, a priori, ne devait empêcher qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, un expert en despotisme, Bonaparte, dira « Au sommet des montagnes souffle le vent de la liberté ». Et cette évolution libérale, si paisiblement amorcée en plein 14e siècle, valait bien celle de l'indécis sauvegardée par les armées. Rien donc, hormis deux cataclysmes, comme savent les provoquer les politiciens aux intentions constructivistes, toujours nocives, toujours d'actualité. Le premier de ces cataclysmes est une décision arbitraire prise à 900 km de là, qui est venue s'abattre sur la partie briançonnaise comme une hache sur un bidon et la sectionner en deux. C'est le traité d'Utrecht de 1713. Ce Yalta et les forces décida que la frontière serait la ligne de partage des eaux, la frontière actuelle France-Italie. Une frontière de géomètre se plaindront les gens de la rouge. Ceci acheva le déclin économique amorcé par le progressif et traumatisa la population qui perdait de chaque côté la réciprocité de sa vie. Il paraissait aussi une complémentarité économique ancestrale entre les deux versants en liaison à travers 21 coins presque tous multipliés. Bétail, cuir, bois à l'ouest, fruits, légumes à l'est. Les monts n'ont jamais séparé les hommes. Une crête est comme un trait d'union. Par contre, un fleuve et même une rivière divise. Bien des familles avaient des liens familiaux de part et d'autre. Les habitants des deux versants n'ont jamais pardonné à Louis XIV qui s'était engagé solennellement à maintenir la cohésion de ce pays, une entité vieille de 1800 ans. pourquoi 1800 ans qu'il disait tout à l'heure. Surtout, la population du côté italien, lorsqu'elle se vit imposée par Mussolini la langue italienne. Quant à Louis XIV, dont les troupes commirent les pires vexations, déjà désestimées depuis la révocation de Louis XIV, qui a rompu une trêve appréciée là-haut et poussé des milliers de gens à l'exil, en plus d'argent, ce roi-soleil, là-haut, roi de l'enfer, est désormais haï. Par jure, parce que de Charles V à Louis XVI, tous les rois ont juré de maintenir la charte de 1743. Roi d'Escarton bascule dans l'orbite du duc de Savoie, 31 communautés sur les 56. Après quoi, les deux autres escartons, solitaires et solidaires dont le sont les orphelins ou les étrangers, conserveront un bon souvenir des dauphins dans le temps, mais verront disparaître la monarchie sans regret, tout en ne se doutant pas de l'éminent de l'autre catastrophe. Le 14 juin 1788, les escartons sont confiés à participer à la fameuse assemblée de Sicile du 21 juillet. Bien que les brillants sommets ne s'estiment pas concernés, l'escarton général se réunit néanmoins pour la désignation des délégués. L'assemblée est tout de suite dans l'embarras, car il est demandé que la désignation s'opère selon les trois ordres. Comme il y a la peine du reste, cette congrès ne tient plus compte de cette classification, l'élection prend une tenue cocasse. Pour le clergé, un bras curé sera toujours l'affaire. Pour la noblesse, déjà ça compliqué. Il faut un nom en particule. Ah, il y a M. de Champouré là-bas. Tout à l'idée, il y a un deux grands noms, il sera un noble. Du reste, c'est le plus imposé, donc il fait un noble parfait. Mais n'est-il pas lui-même un ancien homme? Et frontières d'État, que d'assez. Il n'y a que des hommes libres, francs, bourgeois, politiques. Enfin, la drôlerie de la situation s'arrête là. Vous connaissez la suite, les escarpons de la police de l'emploi. Cependant, avec leur bon sens montagnard, ils prétendent que leur liberté assise la guerre à prix d'or sera les frais de grand commun ménage. Bientôt, arrivent les sommations parisiennes de rentrer dans le rang. Et dans un dernier sursaut de cet ouvrage, touché à mort, écrit un déneur, le 29 décembre 1789, c'est une ultime et désormais bien mûrie requête adressée à Paris. 6 pages. Finalement, le 31 mai 1790, ils envoient à l'Assemblée nationale leur soumission au nouveau régime en assortissant de cette remarque pleine de fierté. Notre pauvreté était extrême, mais nos larmes ne pouvaient pas se défaire. Inutile de dire que la vague révolutionnaire ne fit qu'effleurer le pays. C'est le moment où, comme M. Jourdain faisait de la France sans savoir, c'est Montagnard à Fresnes qu'il faisait de la République depuis toujours. Vous n'avez jamais entendu ce mot? Non, je n'ai pas entendu. Ainsi disparaissait cette République libérale qui avait fait ce rude pays, souvenez-vous, le premier exportateur de maîtres d'école. Pour la campagne d'école de l'hiver 1792-93, 68 passeports furent délivrés par la seule commune de Némache, où ses habitants partaient comme maîtres d'école. Némache, qui comptait à ce moment-là 845 habitants, relevant de 190 foyers, fournissait donc un instituteur par 3 familles. Les deux plus âgés avaient 58 ans. Le plus jeune, 12 ans. C'est le jeune stagiaire qui suit ses aînés pour apprendre, selon leur expression, à régenter les écoles. Mais l'État décida que très vite d'aller régenter les écoles. Ce qui ferme la porte à ses porteurs depuis une loi pour passer fière et tutorelle. Cependant, le 19e siècle n'était pas encore achevé. Qu'un médecin du pays déplorait avec amertume, je cite, quoi, l'arrondissement de Briançon et tirer grand profit de l'organisation moderne de l'enseignement primaire. Il faudrait doubler au moins le nombre des instituteurs pour que l'instruction primaire fût à la portée des jeunes enfants des hameaux, comme elle l'était avant 1790, grâce aux soins et à l'initiative de l'autorité municipale. Ce médecin entendait par là cette communauté villageoise des escarpons où l'individu s'exprime, s'implique, s'épanouit. Or, un siècle après l'extinction de l'escarpement, l'autorité de ces communautés villageoises était toujours respectée. Au point qu'en 1884, des jeunes, à la suite d'un battage nocturne, furent pour se dédouaner, astreints par leur municipalité, à reconstruire un pont qu'un torrent avait emporté. Ces jeunes n'avaient pourtant brûlé ni calèche, ni carriole, ni brouette. Le travail exécuté, ils furent autorisés à planter les tréteaux, pont de la jeunesse. Toute la population avait pardonné ainsi au Saint-Amar du Midi. Voilà un exemple qui plairait à ceux qui estiment que la réparation doit prévaloir à la sanction. Voici une conclusion à méditer. C'est grâce à l'éloignement de l'État, en l'occurrence une royauté d'armes, maintenue à bonne distance en raison de clauses contractuelles, la chasse, d'enclos naturels, la montagne, que les hommes, de leur propre initiative, ont su et ont pu s'associer et coopérer durablement, n'escompter aucune aide de l'extérieur, créer de la richesse à partir quasiment de rien, commercer fort loin, avec profit aussi pour leurs partenaires, comme on dit souvent, réduire leur hiérarchie sociale d'abord en promotion de la base, activer une société civile en compensant les outrances d'une société patriarcale, conjurer les mauvais coups de la nature, penser des traits et des séquelles guerrières venues d'ailleurs, exporter des marchands participent, incroyables et épopées sociales, on ne peut mieux social. Et tout cela, longtemps, longtemps. Voilà ce qu'il faut enseigner à tous ces candidats en mal d'étatisme. Ils sont nombreux en ce moment et pour profiter. En mal d'étatisme et pour cause, et pour cause. Ne se réfère-t-il pas aux idées erronées d'un certain Jean-Jacques Rousseau? Or, cet écrivain aurait pu éviter au monde sa terrible maîtrise en ne concluant pas hâtivement que l'homme est bon, et donc il faut lui modeler une société, parce qu'ayant séjourné dans son idée, il était loisir de s'informer que dans un coin, des hommes, pas davantage bons ou mauvais que tout un chacun, savaient vivre une bonne société. Je vous remercie.
Parce qu'il y a eu la cession du Bocuse à la France. Mais
comme je l'ai dit dès le départ, et comme je l'ai dit aussi à la fin, l'État, en l'occurrence, une royauté, est fort éloignée, à tout maintenir à son existence. De raison à cela, l'achat, c'est une chose contractuelle, et puis aussi les entours naturels de ces montagnes qui sont très hautes, évidemment, pour respecter certaines décisions, c'était quand même plus difficile, surtout avec les moyens de communication de l'époque.
Pensez-vous que les villes comme Andorre, par exemple, ou Saint-Amand-Jésus, ont un gouvernement qui est.
Oui.
Alors, la ville a plus de comme je pense à Andorre.
Andorre,
puisque le seigneur local, finalement, était gang, le roi est assez loin, c'était pas pression, parce qu'il y a une autonomie quand même, au final, sans doute, à cette époque-là. Donc c'est une bonne période où on va voir émerger, finalement, des cités, ou des contrées, qui vont se gérer d'une manière différente. Et vous avez mentionné la ligue en phéatique, parce que entre les cités italiennes, les principautés qui se gèrent autrement, c'est pas, la ville est Fambourgeois, et Briançon ressemble beaucoup un peu à cette aspect des choses. Il y a toute une partie de l'Europe qui ne vit pas sous l'État souverain. Hein. L'État souverain va dire après, en fait c'est les rois français qui vont amener notre conception moderne de l'État, et ça va s'étendre assez tardivement finalement à l'Allemagne, c'est-à-dire à la fin du 19e, et aussi à l'Italie, il faut faire attention à cet aspect des choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que la République des Escarpins n'est pas quelque chose d'exceptionnel dans cet univers européen. Puisque vous avez mentionné la ville d'Antiatique, ça va de Bruges à Hambourg, Hambourg encore un statut de ville d'Antiatique. Hein. Donc il y a une compétition entre différentes formes d'organisation sociale, et ça ressemble beaucoup plus aux bourgeois et aux villes, sauf que les villes étaient de grande grève, d'une certaine manière à l'époque. Donc là, je ne suis pas trop surpris de cet aspect, et il est intéressant de voir que c'est bien l'État français, moderne, bureaucratique, qui va décider, je vous ai mentionné le traité du Grec, qui est important, parce que le traité du Grec ici va mettre fin à la ligne d'Antiatique. Donc la République des Escarpins est quelque chose qui s'inscrit dans un phénomène historique de la formation de l'État moderne à l'ensemble de l'Europe. Hein, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Ça ne me paraît pas comme une exception comme ça. Ça sonne au-delà, bien entendu, de la compétition en fait, entre les États qui existait auparavant. En revanche, ce qui est intéressant aussi, il ne faut pas désespérer, c'est une chose que l'on peut faire, peut-être que les Parisiens se coalisent et décident de racheter à l'État ce pays français d'ici 5 ans par dîner, le droit, bien entendu, d'échapper aux lois, en particulier à la pierre des retraites, à l'ensemble de la fiscalité. Parce que la leçon, finalement, de l'émancipation des gens du carton, c'est le fait que le Dauphiné, le prince Dauphiné, il a besoin d'argent. Et c'est ça qui va permettre la négociation des termes. C'est pas désespéré que dans 10 ans, au moment de l'effondrement, entendu, du système de retraite, nous en soyons là, d'ailleurs, quand tu avais proposé ça, de pouvoir racheter ma liberté, en payant tout de suite l'impôt à notre État, et en étant libéré pour la fin de ma vie, de la retraite, des impôts, etc. C'est une situation qui peut très bien arriver, qui est arrivée dans le business, il ne faut pas désespérer, je considère depuis quelques années.
Vous parlez d'État moderne, ça sous-entend autour du despotisme. Et voici, par exemple, quelque chose qui est un préjudice jusqu'à temps, c'est l'extension du droit donné à Versailles le 29 mai 1766, contenant règlement sur les cuirs et perception du droit sur les cuirs des peaux, établi par l'édit du mois d'août 1789. Ça, ça a cassé l'économie du cuir dans les situations.
Ce qu'on constate au niveau de la législation, c'est que la notion de souveraineté, c'est la souveraineté des individus et non pas les
situations. Non. La notion de souveraineté n'existe pas.
C'est ça.
La souveraineté, le roi va par exemple dans la formation de l'État moderne, si j'ai bien compris, pour avoir des armées permanentes, par exemple, il va être amené à considérer que le territoire sur lequel plus ou moins il est en affaire devient public. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire la guerre, vous recrutez des gens, vous n'avez pas recruté des soldats pour défendre un domaine privé. Donc on va engager, ça recruter par la force d'une certaine manière, alors que vous pouvez le faire pour le domaine public. Donc la notion de souveraineté est beaucoup plus liée au roi et au territoire. La souveraineté individuelle n'a pas de sens. On dit franc bourgeois, franc au sens d'homme libre. Hein? Ça a un sens pour nous. La notion de souveraineté individuelle, c'est à discuter parce que c'est pour lier au souverain.
Oui, durant tous ces siècles, ils n'ont pas eu de conflit, ils n'ont pas eu besoin d'avoir une armée, des gens se battent pour eux, ils n'ont pas eu de se battre parce qu'ils ont fait une agression.
À un certain moment, ils ont eu deux ministres. Une ministre de relever le droit de France, c'était imposé une ministre de défense des frontières, qui n'est pas la frontière actuelle, qui ne pas vers sa lutte vers sud. Bon. Bien. Mais aussi, ils avaient une ministre municipale pour leur propre défense, qui s'exerçait le dimanche au Tirana. Chaque citoyen devait avoir un cartois avec 18 lettres dans son cartois, toujours en contenu. Les officiers municipaux passaient pour vérifier ce qui était fait en Europe, un peu pour nous sortir des officiers, on va nous loger de complètement en vérité. Vous savez, l'Europe, il n'y a qu'à copier la suite. Il n'y a pas une
directive. Mais il ne veut pas être européen ici, sinon vous savez.
Et on a vu des choses là. type d'organisation de passer dans le contexte, des agents d'ordre, c'est comme ça, c'est vrai qu'on conserve. Toutes ces communautés qui ont pu vivre longtemps avec une certaine autonomie, on va dire, c'est la suite. Donc, alors, toi, que si la suite avait une nouvelle terre, je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle terre, une rôle, une projetée, une terre, on peut en faire encore des petites communautés qui disent vous battez ma tradition pour les Alains, qui parlent en fait, qui parlent de Romanche, hein, qui vivent aussi dans un des autres vallées d'Italie. Donc, tout ça, finalement, est-ce que ça n'a pu se passer que par plus aussi dans les montagnes? En quelque sorte, les rois n'ont fait que organiser des pays plats, qui sont des pays courants, qui passent des armées, qui passent des avions. Et que dans les pays plats, il y avait des états. Les états de la France, qui m'a réussi à présenter ça, donc les états, c'est un grand état. Et pour leur donner un grand état, parce qu'ils ont fait la place, parce que l'état a combattu les armées romaines, et que, apparemment, on va dans ces pays courants. On ne peut pas imaginer les petites communautés. Je crains que c'est idéal de voir le idéal d'avant. D'ailleurs, vous parlez de ça, mais d'abord réfléchir. Est-ce que même avant les Latins, avant les Romains, avant, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des communautés sur le néolithique et pas la même? Donc, ça se trouve, c'est une manière naturelle à l'homme de comporter en tant que quand on regarde les littératifs, on regarde les idées, nous aussi,
Je passe la parole à M. Laurent, je vais demander la parole entre nous, si ça me paraît franc et vous demandez à toi.
Oui, pour deux choses, d'abord un point d'information, parce que là, ça appartient à des choses, parce que le voyager, dans l'une des véhicules que je fabrique, n'a rien à voir avec ce que je parlais, c'est juste un mot très vite. D'accord, le trekking, c'est-à-dire la forme des sportifs, dans l'équipe du sauvage. Il y a, évidemment, l'article, relève de la médecine, de se passer des cartons. Alors, le jeu, c'est quoi, c'est tout ce que je comptais quoi, pour la votre mobilité. Alors, je fais des deux, parce que c'est pas long. Donc, il y a de la sorte, ça, quand ça se superpose à la région géographique du Pérat, le Pérat, évidemment, le dernier partie, voilà, il y a des problèmes de projection, à quoi ça tombe. Mais alors, le plus intéressant, c'est ce qui est à la page 72 de l'auteur de l'article, dans le culte de la ronde des sportifs de montagne, c'est ici dans un encart, dans l'est du discussion, donc il est pas tout, vous allez voir, c'est ça qui propose cette pratique curieuse que nous a dit Gilbert Premier. Bien plus, il n'y a pas de folklore, mais c'est la solution des cartons au plus du encore aujourd'hui, ça n'est pas une dans bien des valises. Je vous posais là, je pense que c'est un peu difficile d'accès, et pourtant, pas de passage, pour être majeur, que je suis à l'occasion pour le monde final, en France, je dirais, c'est des gens peut-être très d'air, avec des valises, comme on a pu le dire, tous. Donc, le Vatican et le chef de fin disaient, à pousser de manière solitaire, avec quoi les difficultés de ronde de requête, les aspects fiscales, des 1733, les cartons qui sont exonérés des coûts d'impôt, et les raisons de la majeure. C'est quand il y a des cartons, l'argument de l'homme figure ainsi l'image d'une démocratie locale d'avant-l'heure, où les principales décisions se prenaient en commun, et où l'autonomie à la connexion des violences elle-même n'était pas mince. Je vais dire la société chrétienne, etc., mais alors, est-ce qu'il y a un rapport dans cette description d'un journaliste dans la droite politique, que j'avais donc occupé de quelque chose de belle affaire pour nous, c'est pour ce cher, c'est que le mot libéralisme ou libéral est totalement absent. Ce qui est constaté, c'est qu'il y a une émergence précoce de ce qui est appelé dans cette texte la démocratie locale. Alors, j'en arrive à vous poser numéro 2, c'est la question que je vous pose. S'agit-il véritablement de libéralisme ou tant plutôt, en effet, de démocratie locale, un peu à la manière de ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque on sait depuis le propos de Jean Béchler que la démocratie n'est pas des fois une des œuvres, qui dévoient plusieurs processions, en effet, dans des communautés archaïques, il y a une certaine forme de ce qui est démocratie. Mais j'ai un point un peu plus intuitif, tout le fait qu'il se porte, à un moment donné, ça m'a fait sursauter, mais des questions de la corde pour tous, qui était imposée, parce que quelqu'un, le machin, pour un peu plus tard. Alors, à la limite, moi, en tant qu'individu, que la force vienne de l'État ou qu'elle vienne de l'Assemblée communautaire, pour moi c'est pareil. C'est une coercition agressive. Et je crois pas du tout l'avantage à ce soit une collectivité qui l'impose par rapport à l'État. Pour rien, plus loin, je me sens que c'est pas plutôt une forme de communautarisme avec certains aspects libéraux particuliers pour le droit de l'humanité, parce que là, on se prend, on a des questions. Est-ce que ça prend la majorité? Est-ce qu'il y a une recherche de consensus? Est-ce qu'un individu aurait pu faire ses questions? Quel était vraiment le degré de liberté des individus dans cette république de ce cas? Donc, très souvent, vous avez fait un élément qui fait le mot communauté. Plutôt que celui de la connaissance sociale, c'est si l'individu librement associé et pouvant librement décider de vivre à part, et de faire leur souhait. Sur le plan économique, c'est sans doute d'une marée de contestable. Sur le plan existentiel, est-ce que quelqu'un a pu vivre, par exemple, adopter une condition ou être athée? Est-ce que la communauté n'aurait pas été associée à ce moment-là? Moi, je trouve ça bien plus proche de ce que Benjamin Constant, qui est l'auteur de cette citation, en capital, la liberté des anciens, la liberté moderne,
ça fait beaucoup plus à la lumière pour les anciens, tel qu'on pouvait la vivre dans les Grecs, où tout le monde participe, presque de façon obligatoire, à la chose commune, qu'à la liberté de ces modernes, qui est l'indépendance individuelle. Voilà.
Je pense qu'il y avait beaucoup, qu'il y avait quand même, j'ai pu déceler, c'est quand même l'aspect consensuel, les gens étaient consentants, en ce sens qu'ils étaient obligés de s'unir devant l'adversité de la nature.
Alors c'est pour la raison que c'est déjà là, c'est déjà là.
Un individu isolé qui aurait une unique protection, il était consenté qu'on devient stable.
Alors, je pense qu'un individu voulait toucher le corps. Non, 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 il reste dans le cas. Mais, comme dit Justinien Jean-Claude pour libéral, vivre à sa manière. Est-ce que, justement, il n'aurait pas été persécuté s'il avait voulu vivre à sa manière et, comme dit Jean-Claude, suivre certainement son début de chemin? Est-ce qu'il n'y avait pas une guerre de très sauvegardée qui obligeait chacun à comme il faut?
Une chose qu'il faut quand même souligner, je dirais, c'est le mandat. Le mandat, il est d'un an.
Et la question,
c'est en fonction de nos définis, on oblige quelqu'un à faire quelque chose, malgré lui un peu. Parce que vous dites, s'il a été choisi, c'est les gens qui l'ont choisi. Il n'est pas lié à un mandat. Il ne se présente pas.
Il est présent, il est lié.
Il ne se présente pas. Donc, c'est quelqu'un qu'on a choisi, qu'on a pris, qu'on a eu une date. Ça ne plus meute pour pouvoir gérer cette société, et on lui demande justement de donner de l'argent pour qu'on soit sûr qu'il va bien fond. Et dans ce cas-là, c'est bien de, je dirais, une question de, c'est l'individu qui lui donne le pouvoir.
Étant donné le mandat très court, une année, représentant 5 jours, et il y a donc une remise en question.
Mais vous voyez, je ne peux pas exercer du pouvoir. C'est l'individu qui exerce le pouvoir après la vie. Donc lui ne peut pas, il n'a pas de pouvoir, il n'a qu'une fonction. La plus seule fonction de sa fonction, c'est de faire ce que les gens veulent bien faire. Donc, c'est une certaine, vous le savez, comme vous savez, c'est une idée, 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 c'est
une idée, si vous n'avez pas le livre de consentement et de cette fonction pour vous aider, je me demande comment elle peut être utilisée.
S'il était utilisé, on pourrait être en train de se faire assurer le mandat pendant la nuit. Alors évidemment, si ces chefs de famille réunissent la place de l'image, c'est bien. Il n'est pas ni sa peut-être ni un idiot, il est quand même quelqu'un qui pense qu'il est capable. Ceci n'est pas que lui n'est pas capable. Il est capable, mais s'il durera un an, la vie est souvent terminée.
La vie temporelle, si tu n'écoutes le pouvoir, ça trouve à la tête de la République de Satan. C'est-à-dire que les fous de pouvoir, mais bon, l'adorateur du pouvoir,
si vous
êtes vous,
dans la parole,
vous respectez l'ordre. Moi, je vous propose d'éliminer le mot république. C'est quand même une conseil libéral.
Oui, je voudrais répondre un petit peu à ça, parce que d'abord, il faut quand même se resituer dans le contexte. Finalement, qui à l'époque ne vivait pas dans une communauté telle villageoise, quelques bourgeois qui pouvaient, à la ville, d'une certaine manière, peut-être pouvoir exercer cette chose de plus individuelle. D'abord, je rappelle, pour répondre un peu à Illégal, l'expérience montagne ou plaine, il n'empêche que la vie d'Antiatique, qui a duré aussi plusieurs siècles, fonctionne dans les plaines. Donc c'est pas un problème que ce soit une montagne ou pas. Un prédateur qui veut vraiment prendre la montagne, il la prendra. Il ne mettra pas l'argent qu'il faut. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une compétition, justement, pour le pouvoir, entre des factions différentes, et que les villes ont pu se libérer, à cette époque-là, du pouvoir local. Donc je pense que l'interprétation des escarpons est plus proche de ça. Et il a été mentionné, un point important, c'est une différence peut-être avec la communauté, dans l'aspect historique qui est mentionné, c'est qu'il y a des actes notariés, il y a toute une propriété qui existe, Et en fait, c'est peut-être une copropriété qui est gérée, et la sagesse, en fait, de la tête démocrate, entre guillemets, de la copropriété, c'est qu'ils sont sages, c'est qu'ils ont bien vu que ce n'était pas justement une prédation qui devait s'exercer, une protection des droits de propriété, au sens où justement il y a l'anonymat, vous ne savez pas si vous allez être dans le tour de rôle. C'est des choses qui n'arrivent même pas dans nos propres universités, quand on cherche à gérer en commun certaines choses. Donc il est important aussi de voir que les décisions portent sur les parties communes. Au début, quand vous décrivez ce qui se passe, alors moi je suis proche de la copropriété, avec une meilleure gestion d'un syndic, de savoir qui le fait. D'ailleurs, on explique en même temps que ces gens-là vont apprendre à lire et vont être plus instruits. La différence, par exemple, avec un village qui devait être à côté dans le Dauphiné à cette époque-là, je pense que vous avez mentionné, les gens étaient illettrés et signés avec les croix, l'emprise de la religion devait être beaucoup plus forte. Il y a quelque chose que vous avez mentionné tout au début qui était particulièrement important parce que c'est le début du schisme avec le protestantisme. Là aussi, ça joue un rôle important pour l'émergence de l'individu. C'est-à-dire que l'esprit va... Le monopole des croyances catholiques est rompu. Il semblerait qu'il fasse partie un petit peu de ça. Donc, c'est plutôt une vision non communautariste, enfin une interprétation, non communautariste, et c'est toujours relativement aux paysans qui devaient être dans la plaine, dans le Rhône ou dans d'autres parties, qui devaient être beaucoup plus arriérés, beaucoup plus soumis à la communauté, ou aux prêtres, entre guillemets, qui devaient contrôler la vie. Il est intéressant de voir, pas mentionner l'histoire des prêtres, mais à un moment donné, le prêtre, il n'y en avait qu'un pour aller à la Révolution, on désigne. Quelle était la place de l'emprise des prêtres, par exemple, dans cette zone-là, ça aurait été intéressant d'étudier cet aspect des choses aussi. Donc l'aspect communautariste me saute moins aux yeux dans ce cas particulier.
Et moi, je voulais rebondir sur la remarque, là, sur le milieu hostile qui favorise la solidarité. Mais j'ai pas le sentiment que la comparaison, par exemple, avec le Sidney, qui vit dans le milieu extrêmement hostile, donc qui prend du lieu d'être solidaire, est valable, parce que je pense que c'est quand même moins hostile
le haut des Alpes. À Évreux, c'est le problème.
Les
milieux hostiles, ils sont 40, ils sont vachement solidaires, hein, pour taper 3 mètres.
Ok, bon, d'accord.
Le Sidney, c'est hostile. Alors, il est chez nous, hein.
Deuxièmement, dans le cas des Sidney, c'est des toutes petites communautés, c'est des communautés de 2-3 000, famille, il n'y a pas de chef, les décisions sont collectives parce qu'ils sont obligés d'être soulevés parce que sinon ils ne servent pas. Quand on est en Moussou, on est une forêt, il faut sauter les animaux aussi, il faut traverser, donc l'entrée dans son chemin, etc. Et il n'y a pas de propriété, les seules choses qui possèdent, c'est l'arc, les pêches, ils doivent être pris, alors qu'on sait tout. Une part, ils avons d'autres arrivants en France, ils vont plus loin. Donc je ne sais pas, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de propriété, ils sont obligés pour les gens.
La seule chose qu'on pourrait dire en comparant d'autres, alors l'aspect climatique, non mais l'aspect climatique ou géographique, il est vrai que les prédateurs de l'époque, bon, en septembre, quand il disait Big Land a été protégé pendant je ne sais combien de temps, des prédateurs extérieurs, et a vécu sans état pendant au moins 3 siècles. Donc c'est pas la seule expérience à cette époque-là qui existe. Ça confirme en partie l'isolement qui permet d'empêcher la. C'est-à-dire l'imitation ou les prédateurs seraient grands. Et le contre-exemple, c'est du livre en classique. Hein.
En distance, je me suis recouvert pour la liberté individuelle. En distance, je me suis recouvert pour la liberté individuelle.
Je ne peux pas dire, je ne suis pas extrêmement, je suis victime, moi, donc nous, les prédateurs, c'est normal. Je dis ça les mains dans les poches.
Une des choses que j'ai voulu faire remarquer, c'est un peu la protestation des coutumes, des droits, des devoirs, etc. Parce qu'une chose qui existe, franchement, qui existe en France-Comté, c'est la volonté, comme par contre, dans le Jura, c'est ce qu'on appelle la démocratie des droits locaux, des usages locaux, qui sont toujours plus ou moins en vigueur, qui disparaissent petit à petit. Mais c'est une fois, c'est une qui sont pratiquées dans la même nature qui existe depuis les plus battants. Et une fois, c'est mis par-dessus, le droit du droit, c'est mis par-dessus, le droit de la République française, c'est mis par-dessus, et on en rajoute sans arrêt. Ce qui se passe un petit peu avec la Suisse, c'est comme l'arbre du droit, mais l'ONU vient déjà faire par-dessus, l'Europe revient par-dessus, on est en train de faire ça, et je dirais, les enseignements, c'est un pas profond qui a su qu'elle disparaît. Je peux terminer par le droit de
l'homme, c'est un peu plus de la Suisse.
Ensuite, il aura plus l'ONU, voilà. La Suisse, il ne veut plus il se mette là, ben, il disparaît, ça. Il est aussi
bien, il semblait. On le dit, ça. Vous semblez bien connaître la Suisse, et...
C'est bon. Je m'intéresse à... Je suis intéressé à ces référendums, comment ça fonctionnait.
C'est bon, c'est la Suisse, vous voulez vous interroger. J'ai des amis suisses et ils disent qu'en fait les référendums sont très désaffectés. Et...
Oui. J'ai vraiment dit au CDC, oui. Ils ont des référendums avec 10% de participation, ou ils sont le trottoir. C'est quand c'est des choses très importantes pour une armée. Je me suis trouvé par hasard dans un Zen en pleine campagne pour le référendum de la Suisse sans armée, qui a été lancé par le compte d'Alvis une grosse, que j'ai rencontré d'ailleurs, discuté avec lui. Et moi je m'attendais à ce que le référendum avait une association à donner la suppression de l'armée suisse. Parce qu'il y avait une énorme propagande, tous les journaux, en fait, une énorme propagande de Suisse, la dernière, et vous avez le résultat. Donc à 24 ans, on sur 26, on maintient une armée. Il y avait un pourcentage, je crois, d'un nombre de 60% de population pour. Mais ça a permis de faire des intentions et de rénover leur armée.
Oui. Alors, pour revenir à l'autre, la suite, ça montre un peu que le fait de participation à tout ça, contrairement à ce que disent beaucoup de journalistes, ce n'est pas forcément un coup de tête.
On a une arrivée de la réponse qu'elle m'a fait, c'est fini.
Elle a pas peur, mais je ne peux pas
comment je suis pris dans la PTL de Français, c'est apparemment l'absence du phénomène de concentration économique. Imaginez que certains des membres de la communauté ont des ambitions et des limites. Plus entreprenant que les autres, on aura accumulé plus par le commerce, une capacité de l'acheter, de marcher plus l'amour, plus maison. Comment expliquer qu'apparemment, ce ne soit pas, que ce soit le même, ce ne soit pas des autres.
J'ai pas la réponse, peut-être déjà, il y a le fait de la cette démocratie directe, qui chaque année remettait tout en question, ça fait quand même un choix. Un moral, si ce n'est pas un sens, du sens que je n'ai pas la question. Très bien, avec qui je pourrais aller, alors qu'il pouvait converser avec le monde entier. Par exemple, là, au cours du 19e, on s'est rencontré comme des grands pouvoirs commerciaux jusqu'à Valsariello, au Chili. Alors, le rocher, c'est un cherché côté proche. C'est-à-dire des rochers alors qu'il avait des convois, je veux dire, à travers nous.
Cette famille, donc, avec ce que je vois faire en acquérant des propriétés dans d'autres contrées ou d'autres pays,
peut-être, certainement, peut-être dans d'autres contrées, peut-être, c'est possible, je n'ai pas cherché à avoir cela, plus tard, je n'ai pas su ce que je voulais informer. Rien n'est de ça apparu ici.
Alors, je suis
conscient qu'il
y a une
bibliographie sur cette période. Les sources que j'ai déclamées un peu de ci, de là, j'ai donné ce temps-là, il y a eu une étude de fait au 19e siècle par un ancien magistrat du lieu qui, au moment où, à un moment où il était désigné à l'heure, qui quittait le voyant collègue, j'ai invité chez un ami, et un ami dit, tiens, j'en vois plus dans ma bibliothèque, et il y avait un recueil sur des institutions.
Là,
et,
Et là, à partir de là, alors qu'il n'était plus vendeur en soleil, il a fait des recherches lui-même, facilité par le fait qu'il était magistrat, et il a sorti un bouquin pour la chambre d'un homme de très chaud, le Tati. Lui, s'était tout le temps attaché à essayer de comprendre comment se fait-il que dès sa sortie, et déjà bien avant, il y avait déjà démocratie directe, et il a trouvé, et ça correspondait à peu près, c'est ça que les cartons correspondaient à peu près à l'ancien royaume du roi Cotus, qui dominait cette région au moment des Romains, et on a d'ailleurs fait son guerre avec les Romains, donc les Romains ont été innocents, et puis on a pactisé avec les Romains, en échange de leur liberté, total, ils ne payaient pas d'impôts à l'Empire romain, ils imposaient le libre passage des troupes romaines, des légions romaines, à travers le Moyen-Âge. Il y avait un marché. Et donc ils étaient gagnants parce que les troupes romaines stationnaient chez eux en non pas en occupant, mais simplement en tout à l'état. C'est des marchés romains.
Donc il nous a donné des moyens, c'était un petit achat, des petits achats, des avantages par là, chaque fois ils payaient, jusqu'au jour où suffisamment groupé, on dit bon, maintenant c'est ça de mal, nous avons pu d'offrir une grosse somme et de prendre notre entière liberté. Totalement.
Donc il peut avoir un roi c'est ça l'opportunité. C'est de pouvoir acheter pas cher, c'est donc quelqu'un qui a besoin de faire un
contrat. Il y a même un projet qui fait.
Mais j'avais une question à poser, c'est est-ce qu'on a des exemples, par exemple au niveau de magistrats, etc., de condamnations qui auraient été portées pour l'homosexualité, pour orphelinerie, religion, etc., enfin, des choses qui démontreraient ou non que le carton était quand même libéral et respectait les choix individuels.
Donc on fait un peu pour les personnes.
Oui.
Important. C'était le patriarche qui soumettait sa famille.
Oui.
Des choses je ne vois pas à première vue.
Vous n'avez pas des droits.
Vous avez parlé de mon coup.
Non, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Là. La région des Cartons est un lieu de tolérance de tout le temps, à aucun lieu religieux.
Peut-être une précision en réponse à votre question précédente.
marché fonctionnait normalement, et donc il n'y avait pas de réponse qu'il y ait une concentration due à des avantages politiques. Et du moment que le marché fonctionne normalement, la transparence a lieu, et donc il n'y a pas de concentration naturelle et au détriment des autres qui effectue ce travail, son développement normal.
Je vous ai dit qu'ils avaient une foi internationale et qu'ils tenaient à ce qu'ils appelaient leur possibilité de toutes les monnaies possibles. Et même à un certain moment, il y a eu un tirage de monnaie sur place. À un certain moment. Combien de temps, une fois, vous savez, vous pouvez le faire.
Pour les étoiles, je suis en il faut.
Non, c'est un peu plus vieux, pour ça je suis bouquiniste, moi le mien est plus connu, il tient avec des articles. Mais je vous mettrai des pages. Par chance, je suis un bouquiniste, ça s'appelle Essai sur les institutions brillant soleil, de Fauché-Connel, je vais vous donner le nom Fauché-Connel. Fauché est le nom Connel.
Alors, nous reste aussi à remercier M. Fournier, qui nous a montré vraiment un carréel de liberté. Tout le monde pouvait vivre selon ses propres règles, en harmonie avec tout le monde. Malgré quelques situations qui pouvaient être considérées comme la situation difficile, mais au moins, c'est une région de tolérance et également de développement où toute la population a pu en bénéficier. Merci, M. Fournier. La semaine prochaine.